L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère et surtout les gens qui font vivre le Finistère et en particulier beaucoup d'associations, vous le savez, on les reçoit souvent. Et aujourd'hui, il s'agit de santé, de droit, d'histoire, un peu de défense nationale, de pollution. On ne va pas plomber l'ambiance. Il existe une association des vétérans des essais nucléaires, l'AVEN. L'acronyme est joli, la réalité sans doute plus sombre. L'AVEN est une association nationale, mais forcément, étant donné la portée militaire de notre territoire, cette association a des ramifications en Finistère. Le président départemental de l'AVEN vit à Rosnoen, c'est Denis Lardier, et son secrétaire est là aussi, Jacques Youinou. Ils sont là tous les deux pour nous expliquer ce que fait l'AVEN, donc Association des vétérans des essais nucléaires. Bonjour.
Bonjour. Bon.
Donc cette association, j'ai dit un peu ce que c'était, mais oui. Vous pouvez me dire encore, peut-être dire combien il y a de membres au niveau national ou... Depuis quand elle existe, peut-être, Denis ?
Oui, alors, le 9 juin 2001, à la suite de l'appel lancé en mars 2001 par Bruno Barriot, il a travaillé beaucoup sur les essais nucléaires pour connaître la vérité. Bruno Barriot et Michel Verger étaient des vétérans des essais nucléaires au Sahara. Ils ont monté un groupe de personnes pour créer l'association des vétérans des essais nucléaires français et leurs familles, déclarée la préfecture du Rhône.
C'était déjà l'AVEN.
C'était déjà l'AVEN. Et auparavant, il y avait une autre association qui avait été montée par ces deux vétérans. C'était des vétérans du Sahara, ah oui. Puisque les essais nucléaires ont démarré au Sahara.
Et après, ils ont eu lieu à...
Et ensuite, après les accords de Grenelle, les accords d'Évian plutôt, en fin de ce qu'on appelle maintenant la guerre d'Algérie, il fallait trouver un autre site pour les essais nucléaires et ça a été envoyé en Polynésie.
Et juste pour qu'on sache, enfin moi, je n'ai pas idée des essais nucléaires qui se sont arrêtés en...
96.
C'était pas souterrain tout le temps, enfin, en fait.
On... Non, non. Ouais. Les essais nucléaires en Polynésie ont été faits de 66 à 74 en aérien, sous barge ou sous ballon, et ensuite en souterrain. Au Sahara, il y a eu des essais aériens sur pylône et ensuite dans la montagne.
Et autre question technique, on mettait une bombinette ou... Enfin, évidemment, on ne mettait pas une bombe de taille guerrière.
Les bombes, c'était des essais. Il faut se rappeler que les États-Unis, l'Angleterre et la Russie, l'URSS à l'époque, s'étaient dotés de bombes nucléaires. Il faut se rappeler des deux essais aériens. Je dis bien essais aériens américains sur Hiroshima et Nagasaki. Oui. C'était pas des bombinettes.
Non.
Donc la France devait se doter de bombes équivalentes, voire plus puissantes.
Et c'est celle-là qu'on faisait sauter pendant les essais.
Tout à fait.
C'était pas des prototypes en plus.
Non, non, c'était pas des bombinettes.
Et donc.
Et ce n'était pas non plus des bombes propres.
Ah oui, non, mais ça n'existe pas, je pense, des bombes nucléaires propres, qu'elles soient A ou H, hein, d'ailleurs.
Oui.
Et donc, ça, on sait combien il y a eu d'essais en tout ?
En tout, il y a eu 210 essais.
Sur une période donc, de quoi ? Des années 50
à 96 ? De 60 à 96.
Bon, OK.
Alors, il y a eu 17 essais au Sahara, 4 aériens, 13 souterrains, 193 essais en Polynésie, 47 aériens, 146 souterrains.
Et est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment se passe un essai, enfin, combien il y a de gens qui regardent ou qui y travaillent, en gros, hein, enfin, ça a peut-être évolué d'ailleurs.
Entre le Sahara et la Polynésie, il y a eu 150 000 personnes à travailler sur les essais, tous métiers confondus.
Oui. D'accord.
Et autant civil que militaire.
Et qu'est-ce qui se passe en gros? Comment ça se déroule un essai? Jacques.
À la préparation d'un essai, par exemple sur le site de Mururoa en Polynésie française, on évacuait le site avec les bâtiments bases et tous les bâtiments militaires. Il restait sur le site qu'un blockhaus pour le suivi, le lancer, le tir de la bombe qui était montée sur, en général, sous un ballon. Je parle sur un ballon. Hein, et le tir était déclenché. Donc l'atoll était déserte.
Mais c'était désert dans un... L'atoll, à combien de kilomètres à la
ronde ? On peut dire que les bateaux s'éloignaient environ d'une bonne vingtaine de nautiques. Donc je veux dire 40 kilomètres. D'accord. En gros, pour
Sahara,
se protéger.
Dans le Sahara, c'est pareil ?
Dans le Sahara, c'était différent. Ils étaient il y avait le tir aérien qui se passait à...
J'ai oublié le nom. Necker.
Necker, c'était les tirs souterrains. Et là, les gens étaient environ une cinquantaine. Il y avait une zone vie, une zone basse qui était en retrait d'une cinquantaine de kilomètres. Donc les gens étaient en recul. En théorie, ils étaient protégés. Et les vents en altitude auraient dû être dans le bon sens. Mais la réalité du terrain a fait que ça ne s'est pas passé comme les scientifiques de l'époque le prévoyaient. Il y a eu des retombées et des vents dans le mauvais sens, ce qui fait que, d'une certaine manière, au Sahara, une bonne partie de la population civile et militaire, des entreprises qui travaillaient sur les sites, ont été contaminées. Voilà. De par les vents de sable, en particulier au Sahara. En Polynésie française, on peut dire que c'était plutôt la pluie et les vents qui faisaient qu'il y avait des retombées sur les atolls avoisinants autour de Mururoa et de Fangatofa. Les tirs ont eu lieu alternativement, soit à Mururoa, soit à Fangatofa. Ce sont des atolls qui sont contaminés à vie, pour des millions d'années. On est d'accord. Par contre, les retombées radioactives se sont produites au fil des temps, depuis la première bombe qui a eu lieu en 1966 à Mururoa. Petit à petit, toute la Polynésie a été contaminée par les pluies et les vents.
Oui, parce que ça reste, bien sûr.
C'est toujours. Faut pas oublier que le lagon de Mururoa et le lagon de Fangatofa sont toujours contaminés. Il y a des restes de matière radioactive. Sans oublier que dans ces deux atolls, il y a eu des tunnels de fait pour descendre la bombe à une certaine profondeur pour faire des explosions soi-disant plus propres qu'en aérien, parce que la radioactivité restait dans les tunnels. Mais il y a quand même eu, des petites fuites. Quoi.
Hein ? Forcément.
Voilà. Et il s'est passé à peu près la même chose au Sahara, lorsqu'ils ont tiré dans la montagne. Il y a eu des retours de gaz radioactif, entre guillemets, gaz noir, la couleur apparence noire, qui sortait par les bouches où il y avait les appareils de mesure. Et ça a effondré une partie de la montagne. Voilà. Oui. Ce qui fait que la zone vie, une bonne partie, sur pas mal de kilomètres, a été touchée par les vents de sable et automatiquement contaminée. Voilà, tout simplement.
Donc il fallait faire ce rappel historique pour que les gens comprennent bien l'enjeu, évidemment. Donc la veine a été créée parce qu'il y avait des malades qui se déclaraient ou...
Voilà. Pardon. Comme je le disais en préambule, Bruno Barriot et Michel Verger ont recherché des vétérans suite au retour des premières OPEX. Les vétérans du nucléaire avaient certains symptômes. Ils ont monté une association, mais à l'époque, personne ne voulait en entendre parler. Et donc, au bout d'un an, c'est tombé à l'eau, faute de moyens, bien sûr, manque d'adhérents, etc.
Donc là, c'était plutôt des vétérans militaires, je suppose.
Oui, des gens qui avaient fait leur service militaire, des engagés. Et au bout d'un an, donc, tout est tombé à l'eau. Mais Michel Verger a continué à prospecter. Et surtout, quand il a vu les premiers militaires qui rentraient d'OPEX, opération extérieure, et qui déclaraient les mêmes symptômes que les vétérans du nucléaire.
Des cancers, plutôt ? En général, c'était quoi, les symptômes ?
C'est surtout des... Effectivement, il y a beaucoup de cancers. Mais il y a d'autres maladies radio-induites hors cancer, mais ça...
Ouais, par exemple, juste passe. Pour avoir une idée.
Ça passe. Oui, comment dire des myélodysplasies.
Ça s'apparente un peu à un cancer, ça, non ?
Oui.
C'est des cancers du sang ou de...
La leucémie, ouais, cancer voilà. du sang. Mais il y a aussi des géodes, des ostéochondrites, ostéonécroses.
Des problèmes sur le squelette, quoi.
Exact. Ouais.
Mmh, d'accord.
Et donc, Michel Verger a été contacté, un ancien médecin militaire qui était à l'époque chercheur à l'INSERM. Et après maintes et maintes discussions, ils ont monté l'AVEN.
Ça y est, donc c'était en 2001.
Là, on est arrivé à l'AVEN. En 2001, l'AVEN a été créé officiellement à Lyon. L'année d'avant, il y avait eu la création de l'association Mururoa et Tatou en Polynésie.
Qui existe toujours ?
Oui. Oui, oui, oui.
Et donc elle est en lien avec l'AVEN, j'imagine ?
Exactement, parce que ce sont deux associations sœurs. Et ensuite, dans chaque département, il y a eu des créations d'AVEN avec le numéro du département. Mm-hmm. Donc nous, on représente l'AVEN 29.
Et sinon, en tout, 150 000 personnes qui ont participé aux essais, j'imagine qu'il n'y a pas 150 000 adhérents à l'AVEN nationale, Jacques-Huyenou.
Non, il n'y a pas 150 000 adhérents, c'est dommage, parce que ce serait très bien, ça aurait un impact plus important vis-à-vis de nos politiques. Dans le cadre de l'AVEN 29, on est monté environ entre 2010 et 2024, à 457 adhérents.
Oui, ça doit être une des plus grosses délégations.
Cotisation à jour. En 2024, nous sommes environ à 300 adhérents, cotisation à jour, à la date d'aujourd'hui. Et le Finistère semble assez important dans la mesure où le personnel civil et le personnel militaire, en particulier Brest, ont travaillé sur les sites nucléaires. Associé à cela, il y a aussi le personnel du CEA et le SMSR.
Commissariat à l'énergie atomique.
Et le système mixte de sécurité radiologique. Il y a beaucoup de Bretons, aussi bien Brest que Lorient. Il faut savoir qu'au début des essais nucléaires en Polynésie française, il y avait une force alpha des bâtiments français de Toulon et de Brest qui était descendue pour assurer la protection des sites de tir pour éviter qu'il y ait des intrusions d'autres nations. Aussi bien pour les protéger, ces gens-là, que pour éviter qu'ils viennent trop près. Mmh. Pour protéger, j'entends tout simplement que si le nuage allait dans tel ou tel sens, pour que leur bateau ne se trouve pas sous le nuage pour avoir des problèmes de retombée avec l'eau de pluie.
Mmh. Et donc, l'AVEN a été créée. Donc, vous avez créé l'association finistérienne. Enfin, où elle a été créée quand, l'association finistérienne ? Tout de suite, en 2001 aussi ?
En 2002.
Ah oui, bon, vraiment. Et alors, quels sont, à vous, Denis Lardier et Jacques Huyenou, vos propres parcours avec le nucléaire ? Alors, Denis.
Alors, moi, j'étais engagé dans la marine en 1966. Et le 7 juillet 1967, j'embarquais sur le bâtiment base Médoc à Bordeaux. Alors, qu'est-ce qu'un bâtiment base ? C'est le bâtiment base Médoc, c'est un ancien moutonnier qui faisait la ligne Marseille-Alger, qui a été racheté par la marine et transformé en hôtel-restaurant pour les personnels qui travaillaient sur les sites à Mururoa. Il y en avait 5 à Mururoa. Il y avait le Maine, la Maurienne, le Médoc, la Moselle et le Morvan.
Et vous êtes cuisinier, hein, c'est ça en fait.
Et moi, j'étais cuisinier. Donc là, c'était...
Et donc, par rapport aux essais par rapport aux essais nucléaires, donc c'est quoi ? Vous étiez à côté de la zone, quoi, en fait, quand ça se produisait.
Oui. Alors, j'ai embarqué à Bordeaux parce que le bateau Médoc rentrait pour la première fois en métropole pour faire un carénage, en sachant que les essais nucléaires ont commencé en 1966 à Mururoa et Fangataufort. En janvier 1968, je suis parti avec le bâtiment Médoc sur zone, traverser l'Atlantique, escale en Martinique, traverser le canal de Panama, direction AO, la base arrière pour les essais nucléaires, Papette, et ensuite Muru-Fanga. Donc là, on est arrivé en 68. J'ai participé à 5 tirs nucléaires, dont la première bombage, Canopus,
Donc vous les avez vus, de vos yeux vus ou pas?
Voilà.
Oh, ouais.
Alors on voit en fait, la bombe c'est quoi? C'est rien du tout, c'est on va dire un coffre qui était au départ sur barge et ensuite sous ballon, un beau ballon jaune. Là, nous avions pour ordre de nous mettre dos au point zéro, mmh, la tête dans le coude et d'attendre les ordres.
Ah oui, c'est tout. Il y avait pas de...
C'était notre protection.
Ah ouais, c'est un peu léger.
La bombe explosait, un champignon se formait qui montait à plus de 10 000 mètres d'altitude. Et là, c'est magnifique parce qu'il y a des belles couleurs pastels. Mais comme je dis... tous les plus beaux champignons sont les plus mauvais.
Mmh. Et d'ailleurs, à propos de champignons, enfin, juste la nourriture, par exemple, ce n'était pas de la nourriture locale que vous cuisiniez ou...
Il n'y avait rien de local, ouais, parce que l'atoll de Muru, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'élevage, il n'y avait rien. Donc on se ravitaillait d'après le service de ravitaillement de Papette. Ça nous arrivait par avion et on embarquait ça sur les bâtiments. Et...
Donc a priori, ça au moins, ce n'était pas contaminé, a priori.
Voilà.
Et Jacques, vous, votre parcours? Bien,
moi, j'ai, après Denis 68, moi, j'ai fait 3 campagnes en Polynésie française, la campagne de 1970, la campagne de 1971 et la campagne de 1974. C'est-à-dire que j'ai fait en 3 campagnes, 23 tirs, j'ai assisté et participé à 23 tirs aériens.
Vous étiez militaire ou...
J'étais aussi militaire dans la Marine nationale. Et en 1974, ma famille vivait à Papette.
Ah oui.
Voilà. Donc, c'était très bien. On était très bien en Polynésie française. On a passé d'excellents moments. On n'aurait jamais pensé qu'en 2005, j'aurais déclenché quelques maladies, tout simplement.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Avez-vous des problèmes de santé, l'un et l'autre?
Oui, Jacques. Ils sont derrière moi, les problèmes de santé. Ils sont toujours présents. Il y a un suivi continu, annuel, tout simplement. Et ma foi, je vis avec.
Et votre famille?
Alors, ma famille, ça se passe bien d'une manière générale. On s'est, ayant pris connaissance que j'ai été touché par un cancer en 2005, officialisé en 2009, par rapport à mon passage en Polynésie française entre 1970 et 1975, ça a levé des points d'interrogation qu'on avait sur nos soucis entre parenthèses familiales. Quoi. Et on a mis des mots sur les doutes qu'on avait, tout simplement. Et de conclusion, tout se passe bien pour l'instant, mais je pense quand même que involontairement, j'ai transmis à mes enfants un mal, peut-être, qui sortira peut-être un jour, dans la mesure où ils ont été conçus après pendant et après mon séjour en Polynésie française.
Peut-être
tout
des
simplement.
Modifications génétiques.
Alors,
des choses
on,
comme ça.
On peut supposer qu'il y a des problèmes sur la descendance. La veine de ce côté a fait, je vais dire, un récapitulatif sur les parents et les enfants et les petits-enfants de ceux qui ont été au Sahara, il ne faut pas oublier les Sahariens, et en Polynésie française. Je sais que cette liste est assez grande. Elle a été remise au ministère de la Santé il y a quelques années en vue d'une éventuelle étude sur la descendance.
Oui.
Là, actuellement, l'AVEN travaille toujours, la présidente et actuellement le conseil d'administration de l'AVEN travaille toujours sur ce sujet, avec espoir que l'État prendra conscience de tout ça et que le ministère de la Santé lancera une étude sur la descendance des enfants et des vétérans qui ont été là-bas.
Oui, ce serait intéressant.
Pour justifier identiquement comme quoi les suppositions, les supputations qu'on a, comme quoi on a été touché par la radioactivité.
Mmh.
Pour l'instant, il n'y a pas
de
preuves scientifiques formelles.
Mmh. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler que c'est vrai que la radioactivité peut entraîner des modifications génétiques, etc. Et vous, Denis, ça va? Denis Lardier, vous en
oh, bah,
santé?
Oui, ça va. Ouais. Hein.
Bon, c'est déjà ça.
Comme je dis, moi, l'enveloppe est belle, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. J'ai des problèmes aux pieds. Mmh. Avec la veine, nous avons obtenu un suivi médical post-professionnel qui se passe tous les 2 ans. Oui.
Ça, c'est bien déjà.
Et je parlais tout à l'heure d'ostéochondrite, ostéonécrose, etc. C'est ce que j'ai au pied, ce qui m'empêche d'aller me promener comme je le voudrais. Lors de mon dernier suivi médical, on m'a retrouvé la même chose dans la boîte crânienne.
Oui, c'est encore plus inquiétant.
Mais bon, tout va bien.
Bon, et donc, alors, on comprend ce que fait la veine. Hein. C'est une des missions de la veine, j'imagine, c'est d'obtenir déjà le suivi médical, tout simplement. C'est
ça ? Alors, dès le départ à l'Assemblée, à la veine, nous avons cherché à faire indemniser les vétérans des essais nucléaires. Alors, nous avons obtenu gain de cause. Alors, au départ, ça a été assez compliqué parce que l'État nous demandait déjà de donner la preuve que nous étions sur les sites nucléaires. Or, l'État, c'était notre patron, c'est lui qui nous a envoyés là-bas, donc il devait le savoir.
Ah oui.
En 2010, nous avons obtenu la loi Morin, avec une liste de maladies radio-induites répertoriées. Elles étaient à peu près 19, je crois, à l'origine. Maintenant, elles sont arrivées à 23 parce que la veine a réussi à allonger la liste et elle espère la faire allonger encore dans les années à venir.
Mais parce que ça pourrait être quoi, 50, 100 maladies induites plus, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait... Vas-y Jacques, je vois que tu veux prendre la parole.
À l'heure actuelle, les Américains ont environ 46 maladies déclarées. Ouais, nous, en France, nous en sommes en 23. Ouais. Et on espère qu'il y aura 5 de plus l'année prochaine ou l'année d'après. Ce qui me fait penser, revenir tout simplement, que durant les combats de la veine, entre guillemets, hein, depuis 20 ans, la loi Morin 2010... Jusqu'en 2018, si vous voulez, sur le nombre de dossiers d'indemnisation qui étaient transmis à l'État, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, il y a eu 17 dossiers, grosso modo, en 7 ans, qui ont été reconnus. C'est-à-dire qu'environ, il y avait 98% rejetés.
Ah oui.
Et de là, on partait dans un suivi, tribunal administratif, cour administrative d'appel, pour pouvoir essayer d'avoir gain de cause. Entre-temps, le fait que la veine a toujours travaillé avec les élus, les députés et sénateurs de France et de Navarre, ce qui a permis de modifier et d'amender la loi, aussi bien en France métropolitaine qu'en Polynésie française.
Donc maintenant, un vétéran reconnu a toujours une indemnisation déjà a priori ou pas ?
Il faut pas que toujours. Ce vétéran monte son dossier d'indemnisation, qu'il ait travaillé, soit au Sahara, soit en Polynésie française, sur les sites d'expérimentation.
Et militaire ou civil ?
Militaire et civil. Il y a pas de... Et aussi les entreprises locales de Polynésie française qui travaillaient pour le CEA, la Marine nationale, l'État, l'armée, le Centre d'expérimentation du Pacifique, tout simplement.
Donc la difficulté que vous avez maintenant à la veine, c'est plus de faire reconnaître, quand il y a une maladie déclarée, que c'est vraiment les essais nucléaires qui sont à l'origine.
C'est-à-dire que maintenant, quand un vétéran prépare un dossier de demande d'indemnisation, il faut que la maladie corresponde à la liste des 23 maladies de la loi Morin.
Donc vos combats, c'est essentiellement allonger la liste des maladies ?
Pas essentiellement, mais c'est l'un des combats. De faire rallonger la liste des maladies et qui sont pour le moment que des cancers.
Ah oui, d'accord.
Il faudrait qu'on arrive à avoir la même liste que les Américains.
Et autre combat que vous menez encore ?
Alors, comme disait Jacques tout à l'heure, il y a les victimes par ricochet. Il faudrait qu'elles soient reconnues.
Les familles, c'est ça ?
Voilà, oui. Les victimes par ricochet, la veine reconnaît, enfin la veine, le gouvernement indemnise le vétéran. Bien. Les différentes autres associations comme, les maladies l'amiante, c'est-à-dire l'association c'est la FIVA, les victimes d'accidents médicaux, les victimes d'accidents de la route, les victimes d'attentats et autres infractions, le gouvernement va indemniser la victime, le conjoint, la descendance.
Alors que vous, non.
Pour la veine, ça s'arrête aux vétérans.
Ah oui, d'accord. Donc vous voulez un élargissement, quoi.
Voilà, on veut un élargissement de l'indemnisation par le biais de la loi, naturellement.
Très bien. Bon.
On voudrait aussi que la descendance soit prise en compte.
Oui, bah, les fameuses études génétiques.
Tout à fait. Il y a eu des analyses effectuées sur des rats, sur 25 générations de rats. Les 25 générations de rats étaient contaminées. Ce qui veut dire pour l'homme, puisque le rat c'est le plus proche de l'homme, l'homme peut contaminer sa descendance sur encore 500 à 600 ans.
Il faudrait au moins mener les études. Quoi. Okay.
Voilà, au moins.
Très bien. Bon,
comme prévu par un président de la République.
Ah, bon, on va vous remercier parce que c'est déjà la fin de l'émission.
Oh là.
Oui, déjà.
On a tellement à dire.
Aven.org, c'est ça pour le site internet hein.
Pour le site officiel.
Eh bien, et aussi, on pourra réécouter cette émission sur le site internet de Transistor. Ça s'écrit C'H à la fin. Donc le site internet, ça fait transistoche.bzh. Merci, au revoir.
Merci.